Deux questions. Vous voulez bien lever la main? Je sais que j'avais une question là, déjà. Merci. J'aurais besoin de quelqu'un pour un micro de ce côté-ci. Mathieu, tu peux passer une question au troisième.
Oui, merci, Sylvain Côte. En fait, la question, c'était plutôt une participation aux commentaires à l'avant-dernière intervention, quand on a parlé de la veille techno et de l'incitation et de la nécessité pour les développeurs de se renseigner pour faire de la veille, pour continuer ce merveilleux métier. Et j'avais juste envie de dire que on disait que la hiérarchie pouvait un peu libérer du temps puis inciter les développeurs à le faire. C'est très bien. Je pense aussi qu'on peut aussi dire à ces gens-là, enfin à nous-mêmes, que quand quelqu'un arrive avec un résultat de veille, c'est bien d'écouter et puis c'est bien de rebondir dessus, parce que la première étape de veille, elle est plaisante, on découvre des choses, mais tout le travail reste à faire, de savoir si c'est une bonne idée et pourquoi et comment. Et c'est souvent le manque de temps, c'est souvent là qui s'exprime. C'était juste ce que je voulais dire tout à l'heure. J'ai la parole maintenant, j'en profite. Merci.
Je suis désolé, j'ai pas écouté la question de s'organiser. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent répondre à ça? Est-ce qu'il y avait une question? Pardon. Je le referai pas, je vous promets. Demain, je le fais pas, promis.
Non, c'était tellement pertinent qu'on en reste sans vous, là, ici.
Si je peux me permettre. La veille techno, moi j'en ai fait beaucoup. J'étais responsable de veille techno et dev pendant des années. C'est pas la veille techno le plus difficile, on est tous des geeks, on est vachement intéressés par ce qu'on fait. Ce qui est difficile, c'est aller vendre les résultats de veille techno derrière. Ça dépend encore une fois que d'écouteurs. Il faut qu'il y ait des gens bien placés, avec un neurone bien fait. Et c'est très difficile à trouver en France. Quand on a la chance, comme je l'ai eu chez Netscape, d'avoir en face la personne qui est disposée à écouter, c'est un bonheur inouï. La veille technologique donne des résultats exceptionnels. Mais il faut quelqu'un pour écouter. On a malheureusement parfois tous les efforts du monde à faire, et sans résultat.
Merci. Une question de table marron. Est-ce qu'il serait possible aux uns et aux autres de donner leur avis sur les façons dont on structure des fichiers CSS, comment bien les organiser dans un site de taille industrielle, parce que justement on a parlé beaucoup de professionnalisation et d'industrialisation. Ben, allons-y. Allez Raphaël, tu le sens bien là.
Bonjour. Alors déjà à m'excuser parce que commencer, je suis très timide et très impressionné. Vous vous allez?
Nous aussi.
La question était?
Donc c'est pas du bluff. La question était, maintenant qu'on professionnalise le web et qu'on l'industrialise, qu'est-ce qui serait une bonne piste pour arriver à bien gérer ces CSS? Comment structurer des CSS?
Ah.
Déjà, je peux parler que pour ma personne et de mon expérience. Pour ma part, je sais que il y a effectivement pas mal de techniques, pas mal de méthodes. Beaucoup font plein de fichiers CSS différents. Un fichier pour la typo, un fichier pour les différents blocs. Etc. C'est une méthodologie. Moi j'y accroche pas. J'arrive pas à jongler avec plusieurs fichiers CSS. Donc moi j'ai qu'un seul fichier. En tout cas un fichier pour le print, un fichier pour l'écran. Pour ma part, j'aime bien séparer et mettre plein de commentaires. Donc je commence par un gros commentaire avec les généralités, le body, etc. Les liens, etc. Les titres qui seront indépendants en fait de chaque bloc. Et après, je fais un bloc. Enfin, je sépare par bloc tout simplement avec des commentaires partout et Comme ça, je m'y retrouve et la personne qui bosse avec moi s'y retrouve des fois.
Samuel.
Je vais vous parler de ce qui est intéressant dans le processus. Si on veut passer de l'étape 2, dont parlait Ellie hier, de la qualité web, à l'étape 3, dans l'étape 2, aujourd'hui, si vous faites du CSS, il y a quelque chose qui est impératif, c'est que vous devez le maîtriser à fond. On ne doit pas avoir à revenir dessus et dire, tiens, ça devrait pouvoir être optimisé. Ça doit être la base aujourd'hui. Partant de là, la vraie question est, dans un processus d'industrialisation, pour moi personnellement dans mon travail, ça veut dire une équipe, ça veut dire 15 personnes qui à n'importe quel moment peuvent s'échanger des fichiers, qui seront pas forcément au courant du projet, qui auront pas forcément le temps d'être briefés correctement sur le projet. Il faut que ces fichiers dépassent la compréhension que vous en aviez et l'organisation qui vous a rangé pour être compréhensible par le maximum de gens, vos collègues, des gens et n'importe qui dans l'absolu, évidemment avec une connaissance de base du CSS, mais qui puissent reprendre ce fichier et le rendre productif pour lui dans ses modifications ou dans sa reprise le plus rapidement possible. Donc le commentaire, plus que la séparation entre pages, on s'en fiche de ça. C'est pas ça qui est important. C'est les commentaires, c'est l'optimisation de la façon dont vous avez tout arrangé pour que ça puisse se lire comme un roman. J'entre dedans, il y a une introduction, je découvre, ah d'accord, ça me parle de ce qu'est l'ensemble du site, alors il y a un peu peut-être les premiers H1 parce que ça se transforme souvent en logo, les premiers positionnements généraux, et ensuite on rentre dans le détail d'une manière qui va nous permettre naturellement de comprendre et de pas avoir à chercher, parce que quelqu'un qui reprend votre CSS typiquement, ça nous arrive chez nous, on reçoit des sources qui viennent de l'étranger, souvent ou faites par des free, on doit faire une petite modification précise. Il ne s'agit pas de tout changer, il s'agit d'aller retrouver cette modification et les styles qui impactaient dans la CSS. Et ben, je vous promets, c'est un boulot infernal. Je vais passer une heure à deux heures parfois à éplucher le truc pour comprendre. Et tout ça pour aller pouvoir toucher, changer la couleur d'un lien. Ça, c'est dans un processus qui se veut industrialisé, c'est très pénible. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'il faut bosser. Dites-vous comment les autres comme moi vont l'utiliser. C'est franchement.
On parle de graphistes qui font de la feuille de style. Hein. On parle pas d'un développeur.
On parle de n'importe qui, mais. Non, l'inspecteur de DOM, c'est pas une bonne solution. C'est une béquille qui dit, vous savez exactement ce que vous faites. Voilà un truc de plus pour aller décortiquer. Le CSS, ça a une sorte de beauté, et c'est pour ça que pour moi c'est quelque chose qui a plus d'appel aux designers et aux graphistes, parce que c'est très simple au départ à comprendre. Et on devrait pas avoir à le compliquer et à devoir rentrer dans un inspecteur de DOM pour aller extirper de force quelque chose qui devrait être arrivé naturellement dans le CSS. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que je sais le faire, parce que chaque fichier que j'écris, je me casse la tête pour dire comment est-ce que je vais réussir à le comprendre dans 6 mois, mais je pense que c'est vers là qu'il faut bosser pas mal.
Juste, Marie Alhomme, bonjour, Poupou Design. C'était juste pour faire une remarque, il y a un article qui s'appelle l'architecture des CSS, qui était sorti sur je sais plus quel site d'ailleurs. C'est pas pour faire de promo, mais je l'ai traduit pour ceux qui sont allergiques à l'anglais, et qui donne des premières pistes de réflexion qui sont intéressantes, parce que voilà, ça parle effectivement de soit découpé par élément, soit découpé par rubrique, soit découpé par, et qu'il y a vraiment plein de façons différentes de le voir, et c'est il y a des jolies pistes, il y a des trucs intéressants à lire dans l'article.
C'est une traduction que tu as soumise à pontage
Non, elle a soumis des liens en fait.
J'ai soumis le lien en fait. Mais en tout cas, l'article en lui-même est intéressant en anglais ou en français.
I think it was originally written in English and I think I read that, but I wasn't sure I agreed with that for a few reasons. Now, a little bit of a background. I worked on a very, very, very big site that we don't really know the number of pages. Last year, and if you haven't gotten any email from me last summer, it's because I was on this project. Let's say it's telecommunications. So we have a team of 3 developers actually doing the SHTML CSS, so there's not many in the development phase. But what was going to happen later on is that the CSS will be taken by a different team to be integrated in a very big CMS that no one knows quite how it quite works. So if you have worked on a really big site, you can smile and you can understand what I'm talking about. The way we decided to develop the CSS for future scalability was to be very, very specific with our selectors. So, for example, this is certainly not the best CSS I've written in my life. I don't know if I've actually ever written one that I really am happy with. But what we did within the development team of the initial development team is that all of us agree on class names. All of us agree on the model of naming our classes. And then all of us think, okay, we have one file for general declarations, like your basic H1, your P, your span. There's no point in defining a span. Quotation, block quote. So you have one CSS file that defines all the basic look of the basic tag if nobody gives a class. And then you go in to say, this is a class for this context. So let me think. Let's say one section of the site is for promotions. And the header, the body of the document should always have an ID of promotions, hopefully. It doesn't always happen, but either you have it in the body tag or in the div. And then from everything else that belongs in that page starts with #promotions. And that way you make sure that the namespaces that you're creating using your CSS does not conflict later on when somebody decides to write something with the same name. And it will happen, and it has happened. So that was one way we went about really trying to organize. One more thing I'll add is that we documented this CSS to death. We had 10 CSS files, and it's still growing. This is how big this site is, and it's organic because teams are always developing different features, and you have 10 teams doing different aspects of the site at the same time. You have to document the CSS. You have to make sure that somebody knows, can come to the site, read the markup, and know what the CSS does, section by section, and that's the only way you can actually keep the site together. So far, this has worked quite well for us, and 1 year down the track, sometimes when someone says, why isn't this working, we can send them to the documentation, and we go, well, your markup, you might want to fix that. Follow this example. This is what the CSS will do for you. Use this class. So documentation is your friend.
Pour rebondir super rapidement sur ce qu'a dit Stéphanie, effectivement, il y a un truc où il faut pas tenter d'optimiser quoi que ce soit ou pas aller à l'économie en CSS, c'est bien le nommage. Si vous devez faire un nom qui est l'accolage de 2 ou 3 ou 4 mots, faites-le. C'est pour la compréhension. On n'en est plus, aujourd'hui, on n'est plus à un demi-kilo près, quoi. Ça, c'est important.
J'ai juste rajouté un tout petit détail. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Stéphanie sur la séparation entre les classes, les ID et les choses un peu plus compliquées. C'est un point sur lequel nous, qui spécifions les CSS, avons un gros pépin. Autant on a des très éditeurs visuels de markup, de HTML, on a parlé des méfaits de Dreamweaver, autant éditer des styles avec des sélecteurs un peu compliqués pose des problèmes monumentaux de manière graphique, visuelle. Je sais pas comment, moi, visuellement, éditer quelque chose qui serait des styles appliqués au troisième paragraphe suivant un H1 à l'intérieur d'un div portant la classe truc dans le body s'il a ça. Et ça, c'est vachement complexe. Si on était capable de vraiment d'avoir un paradigme et d'avoir un outil permettant d'éditer des machins comme ça, je pense que votre boulot serait simplifié par 1000. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le truc.
Petite remarque derrière. Je vois pas. Ouais.
Bonjour, donc je suis Benoît Salé de l'agence de publicité, hein, cette action à Lille. Donc je suis responsable du pôle technique de cette agence, qui est toute petite. J'avais une question vis-à-vis de la méthodologie des CSS. Aujourd'hui, en tant que développeur, chef de projet, etc., c'est moi aussi qui fais l'intégration graphique, donc qui fait toute la CSS à la main, tout ça. Pourtant, on a beaucoup l'habitude de dire, enfin, quand on explique les CSS, que ça permet enfin de séparer le contenu de la mise en forme, et du coup, implicitement, peut-être, de rendre au graphiste son boulot de graphiste, et au développeur, lui laisser juste faire son boulot de développeur. Or, moi je suis développeur, c'est moi qui me tape toutes les intégrations graphiques CSS, et j'ai beaucoup entendu parler de guide de style aujourd'hui. Je voulais savoir si c'était une méthode que je connaissais pas ou est-ce que c'était en fait un outil où vous spécifiez tous les types de styles que vous allez rencontrer dans votre site et que vous mettiez en face de ça quelque chose de graphique ou... Je voulais avoir un petit peu plus d'informations vis-à-vis de ça.
Stéphanie, une réponse rapide là-dessus, non ?
Moi, j'en ai une, mais enfin,
vas-y.
Qui est pas pour CSS en fait. Tout ce que vous faites dans n'importe quel travail, n'importe quel développement, documentez tout ce que vous faites. Ça permet d'éviter les discussions sans fin. Ça permet de écrivez, spécifiez. C'est la base. Ça vous. Enfin, je veux dire. Il y a eu un modèle qui a été présenté ce matin de Get to Things Done, etc., qui est du succès en ce moment sur le web, etc., mais c'est, il y a rien de neuf là-dedans. C'est juste une question d'organisation de travail. Donc, oui, les style guides pour, que ce soit pour CSS ou pour un document HTML. Alors, attention, faut pas passer à la surdocumentation où on passe que son temps à écrire, etc. Mais tout ce que vous faites, etc., où vous avez besoin de le communiquer à quelqu'un à un moment ou à un autre, il faut le documenter.
I'll add to that. For what we eventually did, usually for documentation as a general rule, even if it's a style guide or not, it's really for you to identify who needs to know this information, what they need to know, and what's the best way for you to communicate to them. So, for example, if you are going to be somebody who needs to reproduce graphics for the website, so like images, okay, we've been talking CSS, text, HTML, but the reality is we do a lot of images too in Photoshop. Somebody will have to know what font you use, what size, if there is any special treatment that you do to the letters. So a graphical style guide normally needs to say these things. It needs to say what's your color palette, and goodness, that's usually things like the line between your paragraph. So that's a graphical style guide that may be used by another designer to create an image or a banner. However, this is different from the CSS. And this... Yeah, okay. Okay. I'll do my own rabbit. Your CSS and HTML documentation is not for a graphics designer. You will not be creating a banner with the CSS information. But these two information are definitely interlinked, right? One affects the other. But the end result are two different things. Your CSS documentation will eventually go to another integrator who needs to create or maintain the CSS or add a new template to the content management system. So really, what you're trying to do is, you know, if you're told that you have to do a graphical style guide, you have to probably ask the question, now, who's going to be using this? Will it be the same audience for both kinds of information?
Ellie va intervenir. Alors, je vais juste glisser une toute petite note. J'ai lu il n'y a pas longtemps le guide de style d'Orange, pour vous donner un exemple très concret. Dedans, ils disent, par exemple, sur toutes les pages de type rédactionnel, la police, ce sera telle taille. Bientôt, ils le feront en pourcentage. Et l'interlignage, ce sera tant. La couleur très précise, c'est ça. Si vous devez mettre un titre, c'est telle police. Si vous pouvez pas le faire en texte parce qu'il y a, très peu de caractères et on veut respecter la charte, faites une image. Voilà la police, voilà la Grèce, voilà les... Bon, voilà. Ellie.
Alors, pour l'impression que ça me donne, c'est que de la même façon que pour développer un site, il y a un certain nombre de bonnes pratiques sur lesquelles il serait possible peut-être de se mettre d'accord. J'ai l'impression que pour la technologie CSS, en l'occurrence, on aurait le même type de problématique. C'est-à-dire que si on essaye de se mettre d'accord sur tout ce qu'il faut faire pour l'architecture et l'annotation et des choses comme ça, on va tomber sur un tas de désaccords. En revanche, si on posait la question à cette salle et qu'on arrivait à lancer un travail collaboratif sur tout ce sur quoi on est d'accord, c'est-à-dire le consensus à minima, c'est-à-dire au lieu d'essayer de définir le document qui tue, qui fait 200 pages, faire le truc, les 10 choses dont on est sûr qu'il faut les faire, où tout le monde est d'accord, c'est indiscutable, ça va nous faciliter la vie. Et ça, c'est une illustration de ce sur quoi je finissais hier. On a besoin de ça sur le web maintenant, enfin dans nos technologies, on a des espèces de besoins de choses sur lesquelles on peut se reposer, dont on est sûr, c'est-à-dire on va plus en discuter. Ça y est, c'est bon. Ça, on sait qu'on va s'organiser comme ça. Et puis ensuite, on a encore toute la liberté pour tout ce sur quoi tout le monde n'est pas d'accord.
Merci Elie. Je rebondis juste là-dessus avant de donner la parole depuis le temps que vous l'attendez. Le W3C a fait quelque chose du même genre déjà pour l'accessibilité. Ils envoient des toutes petites cartes format carte de crédit. J'en ai plein, moi j'en distribue tout le temps chez France Télécom. Les gens sont ravis, ils le collent sur leur écran. J'ai 10 bonnes pratiques dessus. Ça c'est génial parce que vous avez le minimum vital pour pouvoir dire j'ai fait l'effort d'accessibilité, regardez. Voilà. N'importe qui peut le lire, je vous promets, même des pas techniciens. Donc effectivement, on pourrait avoir quelque chose de similaire. Voilà. Allons-y, pardon.
Alors en fait, j'avais deux questions. C'est, bon, la première, c'est toujours avec les CSS. Je voulais savoir si c'est raisonnable de produire des CSS dynamiquement, ou c'est une hérésie.
Je voudrais comprendre ça, excusez-moi. Ça veut dire quoi, produire des CSS dynamiquement exactement?
Comme je produis des pages HTML avec du PHP, je dis pas que je le fais, je me demande si c'est une hérésie de le faire.
Y a pas de souci.
Quel intérêt?
Moi, je sais pas, mais c'est... Parce qu'apparemment, la CSS est chargée de sur une seule fois, et après elle va pas être répétée sur les autres pages, mais si...
Non, vous avez une raison toute bête d'accessibilité, par exemple. Si je veux profiter du fait que l'utilisateur a décidé d'avoir des préférences, et si j'en profitais dans ma CSS pour faire sauter les couleurs. Ça permet de s'accommoder du fait que tous les utilisateurs ne sont pas technophiles et ne savent pas faire leur réglage.
Ah oui, mais
voilà,
ça,
une application pratique.
Ça, c'est pas dynamisme, mais CSS3 a une réponse à ça s'appelle les media queries. Hein, les media queries en CSS3 vous permettent de, en gros, en fonction des capacités, entre guillemets, de votre agent de restitution, de sélectionner telle ou telle feuille de style ou tel style. Donc vous allez pouvoir prendre quelque chose d'extrêmement optimisé, par exemple, pour un téléphone mobile, et quelque chose de beaucoup plus classique pour une télévision, voire quelque chose de beaucoup plus plat et avec beaucoup moins de fioritures pour une imprimante. Vous ne pourrez pas faire de sélection par taille d'écran, parce que vous voulez, par une colorimétrie, enfin, vraiment partout.
Pour une réponse très, très... très technique, quand vous faites dynamique, que ce soit pour du HTML ou du CSS, veillez à bien mettre les informations de cache dans les HTTP, les en-tête HTTP. Ne pas resservir les fichiers encore et encore au navigateur. C'est un des gros problèmes. On parle souvent des problèmes d'implémentation du UI au niveau des navigateurs de HTML et CSS. Les problèmes d'implémentation HTTP, c'est...
Ne dis pas UI, s'il te plaît.
Interface utilisateur, pardon. Merci. Les problèmes d'HTTP sont encore... c'est assez dramatique. Donc, quand vous faites un site en dynamique, veillez à avoir des bonnes informations de cache dans vos développements au niveau des CMS. Et ça se vérifie, ça peut se contrôler.
On a une fin de réponse ici, après vous pourrez poser la deuxième.
D'accord. Alors... À propos de la raison pour laquelle on peut générer du CSS dynamiquement, ben j'imagine qu'on est en face d'un cas précis, on a quelque chose à faire, et puis statiquement ça passe pas. Moi ça m'est arrivé une fois, et j'ai fait quelque chose de dynamique, et maintenant je le fais systématiquement pendant la phase de création de site. C'est qu'on a quelque chose qui devrait arriver en CSS 3 qui va être magique, c'est de pouvoir régler les couleurs en CSS en partant de teinte, de saturation et de luminosité. On peut pas le faire aujourd'hui. Et pour moi, c'est cauchemardesque de régler des couleurs en allant dans un logiciel de dessin pour retrouver le code HTML qui va bien, parce que j'ai simplement voulu changer la luminosité d'une couleur. Donc j'ai un programme sur lequel je peux régler la luminosité et la saturation, et je peux comme ça faire varier un petit peu des choses au niveau de la conception des couleurs directement dans ma conception en travaillant en CSS HTML. Et je reste dans les mêmes teintes, comme ça je fais pas beaucoup d'erreurs, je suis pas graphiste à la base, donc j'ai certaines contraintes que je dois me donner. Donc par exemple, c'est un cas précis, alors ça c'est en attendant qu'il y ait une autre solution qui fasse jour, je l'attends avec impatience, mais il peut y avoir plein de cas comme ça où on a besoin d'être assisté par un programme du côté du serveur pour faire quelque chose au niveau CSS, et je pense que chacun aurait son cas particulier.
Deuxième question, donc.
C'est plus les CSS, c'est tout. On a remarqué qu'il y a de plus en plus de vidéos sur Internet. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez au niveau, justement, accessibilité et standard du web. Comment c'est tout ça? Quel est votre avis sur ce phénomène?
Carl, par exemple, ce serait bien, peut-être. Laurent? Il y a du méta dans tous les sens, là.
Il n'y a pas de secret, hein. S'il n'y a personne qui tape le contenu textuel de la vidéo, elle est pas accessible. Donc là, c'est réglé. C'est les vlogs que l'on voit apparaître un peu partout, c'est une horreur pour l'accessibilité pour plein de gens au niveau du contenu. C'est que ce soit en bande passante d'ailleurs, que en gens, en personnes qui n'ont pas, qui peuvent pas lire.
Oui, enfin, bon, la question est liée à la production de contenu. Donc, c'est vrai que tant que le milieu télévisuel aura pas inclus dans ses pratiques du sous-titrage automatique, il y aura pas de solution, quoi. Parce que bon, la reconnaissance, commence à y avoir des technos de reconnaissance automatique sans sous-titreur, mais c'est pas encore complètement au point. Voilà, c'est une question de pratique, mais des fournisseurs de contenu audiovisuel.
En revanche, il y a certains players qui le permettent. Par exemple, Reel Player, je sais qu'il peut afficher des sous-titres si ça a été prévu dans le document. Donc, ça, c'est vraiment une question de pratique à l'origine. Quand vous fournissez le contenu, fournir un contenu... Je ne veux pas parler des vidéos là. Parce que...
Non, mais les gens d'FTRD travaillent sur un truc où on a en même temps la vidéo synchronisée via l'équivalent du Smile, mais je crois qu'ils ont développé un truc à eux parce que Smile forcément marchait pas partout, et où ils synchronisent en gros une frame avec la frame où il y a la vidéo et au fur et à mesure le sous-titrage arrive. Donc il y a des solutions de ce genre-là. C'est très, faut pas se leurrer, c'est très coûteux en énergie et en temps. Et... D'autres questions? Levez la main. Bon, ben moi j'en ai encore là. Pardon. Allez-y.
Oui, j'avais une petite question sur...
Présentez-vous, s'il vous plaît.
Anna Wagner. Donc, j'ai une petite question sur la gestion de projet. Donc, on a parlé d'industrialisation, donc ça fait penser tout de suite à les processus industriels et à tout ce qui est processus waterfall. Donc c'était pour savoir un peu s'il y avait, enfin, c'est-à-dire, on fait une spec, on développe et puis on revient jamais en arrière. Est-ce qu'il y a des expérimentations qui sont faites sur tout ce qui est extreme programming, méthode agile, voir si c'est adapté au milieu du web?
Des gens qui font de l'accompagnement de projet?
Non, dans quel contexte? Contexte développement d'un site web ou contexte d'une spécification? Pardon. Dans le contexte d'un site, extreme programming, c'est une méthode. Donc, c'est une méthode qui a été développée dans le milieu geek de programmation, mais ça s'applique à n'importe quoi. Et c'est si ça correspond aux besoins que tu as à un moment donné, pourquoi pas? Oui.
Je peux donner juste l'exemple de notre design sur Capgemini. On a fait énormément d'itérations entre le dessin Photoshop que j'ai eu, les dessins Photoshop que j'ai eu à choisir et le site en final. J'ai pas suivi de méthode extreme programming, etc. La clé, je pense, c'était d'abord la collaboration entre tous les acteurs et la compréhension de l'ensemble de ces acteurs, y compris moi. Des interactions entre les différents domaines, parce que dire finalement ce machin ça serait mieux qu'il soit là, ça peut avoir des impacts en termes d'architecture d'information, de l'ergonomie, de plein de choses. C'est pour ça que je suis très réticent moi à travailler avec des gens qui travaillent en linéaire, parce que le temps que ça monte, ça descende, que ça soit déformé à tous les niveaux, c'est pénible. Le problème, c'est qu'il faut travailler en très petite équipe avec des gens qui savent travailler ensemble avec et qui se tapent pas dessus. Designer, architecte, le client. Et une chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le design que vous voyez de Capgemini.com, j'ai jamais fait valider ce design par le directeur de communication ou par le patron de la boîte. Grosse erreur. Dans ces trucs-là, il faut faire les itérations le plus rapidement possible. En essayant du mieux possible de pas se gourer, mais il faut jamais mettre des gens qui valident des trucs et qui sont en dehors de ce circuit-là, qui comprennent pas l'ensemble de ces interactions-là. Et j'ai dû passer presque autant de temps à expliquer aux gens du marketing et de la com que non, il n'est pas question de faire ça et de changer ça en dernière minute, parce que ça a des impacts énormes sur des dizaines d'heures de travail de gens, et que tout ça, c'est un truc que j'appelle le syndrome de Frankenstein. C'est que vous vous mettez à, si Si vous maîtrisez pas sous ce processus-là itératif très correctement avec l'ensemble des acteurs, vous finissez avec une créature de Frankenstein.
Pardon, on va garder les micros. Il y avait une réponse ici et puis
là, c'est juste un complément de réponse. Là, vous avez une méthode qui implique des experts avec des itérations rapides. On a un tout petit peu parlé ce matin. Si vous discutez avec des ergonomes de la façon dont on peut travailler ce type, dont on peut faire évoluer des sites web rapidement avec des itérations rapides, vont vous dire d'impliquer l'utilisateur final à travers des tests utilisateurs répétés, fréquents, pour essayer de repérer les problèmes, notamment d'utilisabilité en cours de développement. Et le gros risque qui nous guette, c'est de se dire, bon voilà, on va faire un cahier des charges, on va essayer de penser à tout, et notre cahier des charges est tellement bon que on va pouvoir se permettre d'avoir une date de livraison, même si elle est respectée, et tomber complètement à côté parce qu'on n'a pas fait les itérations nécessaires. Donc quand vous parlez à des ergonomes, ils ont l'air de dire que les itérations sont inévitables et plus on peut en faire, mieux c'est.
Sam ?
Non.
D'accord. Stéphanie, alors, et puis après...
Can I speak or someone else speak in line before?
You may.
Thank you. I'm just being polite. In accordance to what François and I forgot your name, Ellie and Ellie have been saying, is yes, it's about the process, and yes, it's about the people who are involved. One of the things I've been pushing for is actually for developers to be in strategic design. So, on the table in the beginning of the project, when the brief starts from your marketing representative, your advisor, your conseiller, you should have a developer, you should also have usability, you should have an architect, you should have a designer, your producer, producer project manager, I'm not exactly sure what's the right phrase we use in different countries. So what happens is at that phase, the developer also takes into understanding what the strategy of the site is. So the developer has all this time during information architecture, during design, to think about the technical solution. And when you put developers so far front in the process, you also get them more involved into thinking about, and also they will follow the vision of the project. So, and yes, the rapid iteration and everything will happen that way. And at every phase, even in information architecture, for example, what I do, I always validate wireframes. I'll say, this is doable, this is not doable. And then we validate the design. Is this doable? Is this not doable? At each time, the client will always get something that's feasible at the end.
Okay, là, il y avait encore une petite remarque.
Je voudrais tempérer un peu quand même ce que dit Stéphanie, parce que il y a des choses qui marchent. La qualité web est de toute façon un travail en cours. On découvre à peine comment ça marche et plein d'acteurs, de toute façon, ne savent à peine ce qu'ils font. Donc au niveau de la gestion de projet, à un moment, j'avais tendance à penser que la solution était effectivement de faire remonter les gens très en amont du process, aux réunions d'initialisation du projet, d'avoir tout le monde jusqu'aux derniers codeurs et jusqu'aux derniers intégrateurs. C'est une solution évidente dans des structures de moyenne ou petite taille, parce que les gens fonctionnent déjà comme ça, d'une certaine manière. Ils sont pas si nombreux, ils se croisent à tous les instants, et les réunions ou les assemblées, au sens premier du terme, naissent spontanément. C'est pas du tout évident dans une grosse structure comme celle où je suis. Quand on essaye de faire ça, on le fait pour des projets très importants, mais le suivi a besoin d'être fait même pour les petits projets. Et quand vous avez des producteurs qui dans une semaine vont passer sur 4 projets différents, quand vous avez des chefs de projet qui dans une semaine vont passer sur 4 projets différents, vous ne pouvez pas avoir, c'est bien d'avoir ces réunions communes, mais on peut passer la journée à faire ça, quoi. Et à côté de ça, la production n'avance pas. Donc de toute façon, il n'y a pas de méthode, parce que on est très très loin d'industrialiser dans le sens de pouvoir créer une norme de gestion du projet qui s'appliquerait ne serait-ce qu'à 60% des projets web. On est vraiment dans une phase où en phase 1 des lits pour ce qui est de la gestion de projet, chacun dans son modèle de structure essaye de faire au mieux. Pour certains, ça marche bien, les réunions avec tout le monde. Pour d'autres, comme chez moi, on essaye de sortir des documents beaucoup plus rigides en disant il faut documenter, et parfois trois fois la même chose d'une manière différente, c'est-à-dire qu'on a un brief qui décrit de manière textuelle, on a un storyboard qui enchaîne les pages, et si possible, on a un schéma logique qui décrit les différentes conditions d'accès à une page, très important en Flash, puisque la page peut se présenter de manière très différente suivant qu'on était connecté, pas connecté, qu'on avait rempli tel critère, etc. Et là, on est très loin de pouvoir généraliser quoi que ce soit. On découvre au fur et à mesure.
Et nous repartons dans la salle.
Merci. Pour revenir à l'origine de la question, qui était la question des méthodes agiles, oui, les méthodes agiles s'appliquent très très bien au web. Chez nous, on les pratique depuis maintenant plus de 2 ans, on va dire. À un détail près quand même, c'est que tous les clients n'en veulent pas. Donc, on peut pratiquer l'agilité, encore faut-il que les clients soient prêts à investir ce qu'ils doivent investir eux-mêmes dans l'agilité. Il ne faut pas oublier que l'agilité, c'est mutuel, c'est aussi bien l'équipe de développement, le prestataire, que le client. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, je crois qu'il faut l'adapter, et puis d'une manière générale, en pratique personnelle, je crois qu'il faut aborder les questions de méthodologie avec beaucoup d'humilité. Le web avance vite, très vite, les méthodologies aussi. Il faut être adaptatif, il faut savoir tenir compte des contextes pour avancer à ça. Le client fait partie du contexte, la manière dont le client aussi a besoin d'avancer dans son projet, ça fait partie du contexte. Et puis ce que vous venez de dire est très très juste par rapport à la réalité quotidienne de la production. Il faut avancer, on ne va pas passer son temps à faire de la surdocumentation ou de la surréunion pour perdre son temps. Donc appliquer les théories avec beaucoup de recul, beaucoup d'humilité, et je crois que pour ça comme pour le reste, il faut vraiment se projeter et se remettre en question et avancer. Sinon, et pour terminer sur une note positive, en ce qui nous concerne, l'agilité, oui, ça participe fortement de la qualité web dans les projets. En tout cas, en termes de méthode, c'est effectivement un facteur important qui contribue à la qualité web.
Merci. Deuxième remarque, ça, non ? Denis, vous voulez dire quelque chose ici ?
Si ? Bonjour, Clément Ardouin.
Clément.
Je vais complètement changer de sujet. Si ça ne vous dérange pas.
J'ai pas entendu le nom, pardon.
Clément Ardouin.
Bonjour, Clément.
Bonjour. Je voudrais parler de l'accessibilité. D'après moi, ce que j'en ai compris, alors je suis pas un expert, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 visions qui commencent à émerger. Je dirais qu'il y a l'accessibilité traditionnelle qui est, on part des WCAG et on s'intéresse aux différents types de handicaps cognitifs, moteurs, visuels, etc. Et il y a une autre approche qui est l'accessibilité dite universelle, où on ferait un site pour que ce soit accessible à tous, et bah, parmi tous, évidemment, il y a les handicapés. J'ai l'impression que ces derniers temps, il y a des gens qui ont mis un petit peu en garde, entre guillemets, contre l'accessibilité universelle, pour bien repréciser que, à la base, les WCAG, c'était quand même, si on lit notamment l'introduction et tout ça, c'était quand même destiné avant tout aux handicapés, et que finalement, à vouloir penser à l'accessibilité universelle, on pourrait être finalement perdre de vue l'objectif initial. Alors, en fait, j'aurais voulu savoir quels étaient vos points de vue aux différents intervenants sur plutôt l'accessibilité. Est-ce que c'est vraiment juste pour les handicapés ou c'est vraiment l'accessibilité universelle au sens large ?
Denis, tu voulais vite faire une remarque, et est-ce qu'on pourra répondre à Clément après ?
Ouais. Je voulais juste faire une remarque sur Sam qui faisait une remarque sur Stéphanie. je suis d'accord avec toi, c'est important de pas surcharger de rencontres ou de réunions dans une production, mais pour le bénéfice d'éventuels décideurs qui seraient ici, c'est quand même essentiel d'inclure au minimum les ressources qui vont travailler dans un projet pour qu'ils puissent donner une certaine forme d'input avant que des décisions soient prises entre des gens qui des chargés de projet qui seraient plus ou moins techniques et des clients sur des promesses qui peuvent pas être réalisées par la suite. Donc il y a un minimum qui doit quand même être fait à ce niveau-là. Pour la question d'accessibilité,
je vais donner un exemple très simple. On est tous des handicapés dans un contexte particulier. Je vais prendre un exemple qui est vieux, que j'avais déjà cité plusieurs fois dans d'autres conférences. Des amis qui sont plongeurs, donc qui en bouteille, et qui sont malentendants. donc qui communiquent par la, qui ont l'habitude de communiquer avec le langage des signes. Quand ils plongent, donc vous et nous, si nous plongeons, on a quelques signes pour dire on est OK, on remonte, problème d'air, etc. Donc on a quelques signes limités pour faire ça. Eux, quand ils sont sous l'eau, ils dialoguent. Oh, t'as vu ce poisson-là? Il est super, il y a plein de couleurs, etc. Avec le langage des signes. Nous, devenant handicapés dans un milieu aquatique, eux, ils étaient beaucoup plus à l'aise dans le milieu aquatique pour pouvoir dialoguer. Donc, l'accessibilité universelle, c'est toujours une question de contexte. C'est toujours une question d'accès à l'information. C'est toujours un problème à considérer en fonction d'un contexte. Donc, il y a pas de loi absolue. C'est comme pour les normes web. C'est la même chose. Il faut appliquer les choses de façon à ce qu'elles répondent à des besoins particuliers. Ça, c'est ce que je disais pendant ma présentation sur le web sémantique. Ça sert à rien de surenrichir un document si on n'en a pas besoin. Il faut le faire seulement si on en a besoin. Donc, l'accessibilité, c'est important sur un site web. Il vaut mieux aller vers, parce que on ne connaît pas a priori notre clientèle sur un site web. Et on a potentiellement des gens avec certains handicaps qui vont venir. Mais c'est sûr qu'on va pas pouvoir répondre à toutes les questions d'accessibilité. Quelqu'un qui a un gros problème cognitif, ça va être un problème sur un site web. Comme partout dans la société. On peut pas tout faire. Mais il faut essayer de le faire. Un minimum.
Une toute petite note de contexte sur le handicap avec mes petits camarades. Depuis 2 jours, on a été habitué à travailler par mail, par IRC, par Skype. On s'est beaucoup causé, on s'est beaucoup vu, mais on n'a absolument pas prévu de signe pour s'organiser. Et là, on est super handicapé. Juste pour préciser que c'est vraiment une question de contexte. Denis ?
Oui, c'était juste pour... j'abonde entièrement avec les réponses de Karl, mais pour spécifier un peu la situation que tu as précisée avec les plongeurs, pour amener un exemple plus concret. Moi, je travaille beaucoup avec une société qui s'appelle WebSourd. Et quand je vais là-bas, il y a que des sourds dans cette société, et moi je parle pas la langue des signes. Quand je vais là-bas, c'est clair, si j'ai pas mon interprète, je suis totalement handicapé. Mais vraiment complètement.
Aurélien là-bas.
Bonjour, Aurélien Lévy, Tectonica, Blog Fairytales, pour ceux qui connaissent. Je voulais juste réagir par rapport à la question et en même temps rebondir pour poser une question aux interlocuteurs. Donc, juste préciser que WCAG 2 sur ce point-là est une grosse évolution parce qu'ils prennent vraiment en compte par rapport à WCAG 1 l'ensemble du handicap. C'est l'intention qu'ils avaient. Et par rapport à ça, justement, la question est de savoir si les intervenants ont un avis sur WCAG 2 et s'ils pensent que... J'ai vu que Denis, apparemment, tout à l'heure, en avait un. Mais est-ce que les autres intervenants ont un avis dessus? Et est-ce qu'ils pensent que, parmi toutes les choses un peu farfelues qu'on peut trouver à l'intérieur, il n'y a que du bon, il n'y a que du mauvais, ou on espère que ça va ressortir correct, au final?
D'entrée de jeu, j'ai un avis, mais il est principalement basé sur mon incapacité à m'approprier WCAG 2. Ce que je trouve assez surprenant, considérant le fait que je suis capable de m'approprier WCAG 1 assez facilement. Je comprends le concept dans lequel il y a une volonté de se détacher des technologies pour pouvoir mettre en place quelque chose qui va survivre longtemps. Mais quand on le fait à un point tel qu'on n'est pas capable de rattacher quoi que ce soit au web, c'est contre-productif. Mon avis est là. Mon avis, c'est que c'est un bel effort, mais j'étais définitivement en droit de m'attendre à beaucoup plus après 6 ou 7 années d'attente. Quelque chose de plus concret. Et je me limite à ça.
Une réponse du W3C.
Bon, je vais éliminer tout le sujet du troll parce que il est sous-jacent. Joe Clark a écrit un article contre WCAG 2.
Et il a été abattu par le W3C.
Joe Clark a une certaine personnalité, une certaine façon de s'exprimer, une certaine façon d'avoir des relations de travail avec d'autres personnes. C'est une façon particulière. Des gens ont commencé à répondre à l'article de Joe Clark de façon contraire, la façon dont il fait. On passe. Maintenant pour WCAG 2.0, c'est toujours un document qui est en cours de travail. Les documents et normes web, comme Daniel l'a dit, sont pas parfaites. Quand elles sont toujours pas terminées, qu'elles sont toujours pas devenues des recommandations, il y a toujours de l'espace et du temps pour pouvoir les modifier. Ça prend du temps. ça prend du temps de mettre des gens d'accord, ça prend du temps de discuter sur des projets qui soient aussi importants qui concernent le web. Et l'accessibilité, elle n'est pas que comme un système de règles qui est au-dessus de tout. C'est-à-dire que les technologies individuellement, quand elles sont développées, dans HTML, les technologies d'accessibilité sont considérées. Dans CSS, etc., etc. C'est-à-dire que il y a des revues des technologies faites au sein des technologies elles-mêmes. Donc, il y a une partie de l'accessibilité qui est prise en charge dans la technologie elle-même. Ça, c'est très important. On a ce qu'on appelle des coordinations. L'internationalisation, c'est la même chose. On a des coordinations au sein du W3C pour pouvoir faire ça. Donc, la couche WCAG 2, elle essaye de répondre à des problèmes d'abstraction qui sont pas seulement HTML. Et c'est ça le problème. C'est comment gérer ça? Comment gérer le fait qu'un contenu web n'est pas seulement du HTML et comment gérer son accessibilité? Quelles sont les règles, etc.? Quels sont les principes fondamentaux? Et quand on va vers un peu trop d'abstraction, parfois c'est un peu compliqué.
Merci. Je voulais rebondir en deux secondes. Je me demande, dans la mesure où on voit les WCAG 1, entre, le temps qui se passe entre les WCAG 1 et les WCAG 2, et ce que nous dit Daniel sur XHTML2, je me demande si, à un moment, il ne sera pas intéressant de se poser la question s'il ne peut pas se passer dans le domaine, enfin, dans les méthodes de travail du W3C, la même chose qu'on a vu dans des négociations politiques où Clinton, pour résoudre la crise en Yougoslavie, a enfermé tout le monde sur la base de Dayton, en laissant parler à personne, et en disant, bon voilà, au lieu de travailler pendant 10 ans, on réunit tout le monde pendant 2 mois, et tout le monde est là, sur place, et on doit sortir un doc, et il est bon. Et bon voilà, c'était juste une remarque, quoi.
Merci. On a une dernière question pour...
Sorry? Can I respond to what he just said, kind of?
Yeah.
Sorry.
Girls first.
Now, as you all know, I'm in the voluntary business of actually teaching the best practices and, finding, creating resources. Like, this is what everyone does. So it makes it a little bit difficult for us when things are fluid. But that's the nature of standards. Before you write a piece of software, you have to write the specifications. How do you write a specification when you don't really know the requirements? And this is what the W3C has to face. They are trying to predict what's coming down the line. They're actually trying to do something quite incredible, basically defining what they see the problems may be. So of course, things will be wrong. Of course, things may not be correct. But that's the nature of the evolution of specs, and that's why we have version numbers after them. Well, CAG 1, personally, I feel, is slightly out of date. There are things that I wish it will cater for. And unfortunately, there is this gap between CAG 1, there is the UTAG, and the user agent version of for accessibility that is not well-defined and not well-implemented. So what usually happens is you have other sites like webaim.org, which is unfortunately only in English as far as I know, that... Stop stealing my pencil. You get web developer communities who are actually looking at the specs, looking at the restrictions from JAWS, things it does well, things it doesn't do well, how does this fit in with people who really need to use the software? So there's this bridge we have to make between the documentation and the reality. So, I mean, this is always going to be the case. And we can't, you know, it's just never, you're just never going to have a perfect spec. Never, it's never going to happen.
Nous avons encore 2 minutes pour les gens qui font de la théorie des langages. Deux, là. Comment vous voyez le futur de notre métier en termes de structuration des langages, par exemple? Allez-y, vous êtes deux. Allez-y, vous avez 2 minutes.
Ouais. En termes de théorie des langages, alors je ne sais pas si ce sera vraiment le futur, mais moi j'espère bien qu'il y aura des langages pour les applications web pures qui seront plus déclaratif qu'aujourd'hui, parce qu'on utilise aujourd'hui du HTML avec du JavaScript dans tous les sens pour faire des trucs, ce qu'on fait en Ajax là. On sait bien parce qu'on n'a rien d'autre sous la main pour l'instant, mais ce serait bien qu'il y ait des technologies comme Zool, pas forcément le Zool de Mozilla, mais pourquoi pas, qui permettent justement de déclarer, de réaliser des applications beaucoup plus simplement, et ça apporterait aussi une touche d'accessibilité plus facilement. Parce que à l'heure actuelle, je sais pas, par exemple, pour faire un menu déroulant, en HTML, on utilise des listes avec des bouts de code JavaScript. Mais à l'écran, en fait, ça va pas forcément rendre vis-à-vis d'un lecteur vocal ou autre périphérique, ça va pas forcément rendre comme un menu déroulant dans une application quelconque. Donc le feedback vis-à-vis de l'utilisateur, il va pas être le même, et il va se demander est-ce que c'est vraiment un menu déroulant, donc l'utilisation de ces langages déclaratifs, ça permet donc justement donc d'avoir une meilleure productivité, mais en plus d'améliorer en fait l'expérience utilisateur. Donc je vois ça. D'ailleurs, ils sont à l'étude d'un langage de type Zool pour le standardiser. Je sais pas où ça en est actuellement. Alors ils sont en train d'étudier XAML, Flex, Zool de Mozilla et compagnie. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc je pense qu'ils vont plus ou moins dans la bonne direction pour ce qui est de la réalisation des applications web pures. Voilà.
Karl, tu as 30 secondes.
30 secondes.
Le futur, c'est
demain. Donc oui au déclaratif plutôt que le programmatique. C'est, moi je vois le même intérêt que ce qui s'est passé pour l'édition. C'est-à-dire que le fait que HTML arrive, ça a permis de simplifier à beaucoup de gens, ça a permis d'éditer du contenu. Ben pour la programmation, c'est la même chose. Ajax, il y a pas grand monde dans la salle qui est capable de faire du Ajax et de faire du JavaScript. Donc avoir des balises ou des langages déclaratifs pour faire ça, oui, beaucoup mieux. C'est en cours. Le requirement document donc le document de requirement de prérequis pour le langage, langage type Xool est en cours de développement dans le groupe Web Format. Voilà.
Merci beaucoup à tous. Alors, avant que vous partiez, je voulais juste vous dire un petit renseignement pratique. Tous les gens qui ont pris des photos, vous êtes invités. Il y a un groupe sur Flickr qui s'appelle Paris Web 2006 en un seul mot. N'hésitez pas à mettre des photos et à vous raccrocher à ce groupe. Envoyez-moi un mail si vous devez être invité. Je comprends rien à Flickr, moi. Je serai sur ce groupe à partir de ce soir. Donc, envoyez des mails si ça pose problème. Encore une fois, je tiens à remercier nos partenaires qui nous ont soutenus d'un bout à l'autre. IBM, France Télécom, Mozilla Europe. Je sais pas où est passé Tristan aujourd'hui. Enfin, je voulais remercier tout particulièrement Adrien, Business Interactif nous l'a prêté. Eric, que SQLI a mis à notre disposition. Et Olivier, que Novactive a mis à notre disposition. Donc ils sont mis à disposition par leur société pendant 2 jours et on les remercie aussi. Puis surtout, je les remercie tous parce que voilà, moi j'ai une grosse entorse et ça fait une semaine qu'ils sont des choux avec moi. Voilà. Merci. Merci. Alors, Sam a une toute petite annonce à faire passer, et après, fini.
Il a dit que c'était égoïstement d'avoir été invité. Les bons freelance CSS, c'est super rare. Je suis sûr qu'il y en a plein ici. Moi, j'arrive pas à en trouver un seul. Si vous êtes bon, très bon, si vous êtes capable de monter des trucs très graphiques, vous venez me voir, et puis sûrement on va bosser ensemble et vous serez payé cher.
Voilà. Alors, voilà, l'annonce est passée. Je vous remercie tous, on a tenu les timings, vous avez tous été très polis et très intelligents, ça a été un pur bonheur pendant 2 jours. Merci.